Donc, ben, en tout cas, je le remercie parce que, après les exposés ce matin, dans l'ordre philosophique qui s'interrogeait sur le réel, etc., bon, moi je me sentais un petit peu décalé parce que je n'ai nullement la prétention de tenir un discours original ou théorique sur la construction d'objets, mais un peu comme Charles, mais en moins bien, je le crains. Un peu comme Charles, c'est à partir déjà un long parcours de chercheur que je souhaiterais dire petites choses et éventuellement bah, montrer l'évolution progressive d'une construction d'objets portant sur le communisme. Et à la différence de Charles, c'est très important, en ce qui me concerne, je n'ai jamais entretenu aucun rapport personnel, très peu, avec Bourdieu, le groupe Bourdieu, etc. C'est une histoire différente, mais en même temps, je suis complètement d'accord avec la question que tu posais. C'est aussi un des fils de mon propos, à savoir que réfléchir sur la construction d'objets, pour nous, c'est aussi réfléchir sur la construction du sujet sachant. Hein, et donc, par exemple, une des questions là, que je poserai, c'est quelles sont les conditions qui sont au principe du fait qu'on s'intéresse à la construction d'objets? Parce qu'après tout, il y en a plein qui s'en foutent. Bon, alors je rappelle que cette journée-là, évidemment, je laisse tomber, je suis désolé, je suis arrivé en retard parce que je croyais que ça commençait à 10 h. Je suppose que que Louis a parlé tout à l'heure des raisons pour lesquelles il avait initié cette réflexion sur la construction d'objets. C'est vrai que c'est une question dont je voulais dire 2 mots, mais je dirai rien. Je rappellerai simplement que le problème de la construction d'objets, pour les vieux chercheurs comme moi, je commence à se faire vieux quand même, c'était quelque chose d'exaltant. Quand on était confronté à cette question, on va construire l'objet, c'était quelque chose de nécessaire, c'était la condition pour faire science, pour être dans la science, pour être dans le vrai, et c'était quelque chose de potentiellement paralysant. C'est quelque chose qui fonctionnait comme, pour moi, en tout cas, et je l'ai vu fonctionner, on va pas faire. Mais je l'ai vu fonctionner comme une sorte de surmoi épistémologique sur un certain nombre de collègues qui, d'ailleurs, d'un certain point de vue, en sont restés toute leur vie à la recherche désespérée de l'objet qu'ils essayaient de construire. Et c'est un des premiers problèmes. Bon. Alors, cette invitation, en tout cas, me semble très utile. Et pour ce qui me concerne, les problèmes de construction d'objets, évidemment, je les ai toujours vécus en rapport avec une sorte. Dans un premier temps, j'avais écrit dialogue. C'est d'une prétention son nom. Le dialogue avec Bourdieu, ses lectures, etc. Non, c'est pas un dialogue parce que c'est pas vrai. Le dialogue, ça supposerait une certaine égalité. Je pense que ça, c'est un deuxième élément de la construction d'objets. Pour moi, comme chercheur, c'est pour gérer justement le surmoi épistémologique dont je parlais précédemment, c'est de réussir à trouver sa juste position. Autrement dit, entre le travail empirique, dans la hiérarchie des chercheurs, etc., il y a quelque chose qui se joue là-dedans, qui, me semble-t-il, est très important, mais que je ne fais que suggérer, et qui pourrait éventuellement avoir un sens pour les uns et pour les autres. Donc, pas de sentiment d'originalité en matière de construction d'objets. En ce qui me concerne, donc, la recherche d'une juste position, ça a été fondamentalement de me situer comme socio-historien. Ce qui est une façon de répondre, c'est une des modalités, un des langages possibles de la construction d'objets, puisque le propre de l'histoire, c'est cette espèce de fascination pour le concret, le réel, les petites histoires, etc. Et le propre de la sociologie, normalement, du moins telle que j'ai appris à la connaître avec Bourdieu, c'est de généraliser. Bourdieu avait une formule qui a servi de formule rectrice pour moi sur cette question-là. C'est plus facile à dire qu'à faire. Moi, j'ai plein d'énoncés. Je suppose que vous avez des cahiers de citations. Enfin, moi, j'ai plein de cahiers de citations. Loin de ceux de Gérard, qui en a une pièce entière. Mais j'en ai quelques-uns. Et alors, Bourdieu, dans Sur l'État, dit « L'ambition du sociologue se distingue de celle qu'engagent la plupart des historiens dans leur travail. Le sociologue essaye de construire un modèle théorique d'un processus, c'est-à-dire un ensemble de propositions systématiquement liées et justiciables d'une vérification systématique susceptible de rendre compte d'un ensemble de faits historiques aussi grand que possible. C'est une définition simple du modèle. Vous apprécierez la façon qu'il a de qualifier son modèle, qui est un modèle à tous les sens du mot. Et si on arrive à y être à la hauteur de ce modèle, ça sera bien. Et donc, je vais essayer aujourd'hui de faire semblant d'être à la hauteur du modèle en suggérant, enfin, à ce stade de ma carrière, un concept qui résulte d'une construction d'objets sur le communisme et qui serait le concept de socio-biocratie. Et je le soumets parce que je profite de la situation pour voir l'effet que ça fait. Si vous me dites c'est n'importe quoi, ben éventuellement j'en tiendrai compte, mais c'est pas sûr. Mais quand même,
il faut des explications d'abord.
Oui, j'y arrive. Alors donc, en tout cas, le premier moment de la construction d'objets, en ce qui me concerne dans cette carrière de chercheur, ça consiste effectivement à ce qui concerne le communisme, ça consiste, c'est là que c'est confus évidemment, parce que j'ai pas les moyens de comprendre cette conversion dont tu parlais, parce que d'un certain point de vue, c'est de ça dont il s'agit, ça consiste à se détacher de la fascination qu'exerce le sujet communiste sur le jeune chercheur que je suis, qui par ailleurs est communiste. Donc, d'un certain point de vue, la construction d'objets, elle commence à partir du moment où je me dépolitise, où je me décommunise. Et donc là, il y a tout un processus notre rencontre m'amuse, je vais essayer d'aller assez vite quand même, mais elle m'amuse parce qu'elle m'a fait remettre en mémoire un moment de cette conversion qui se caractérise où je suis encore au Parti communiste et je commence à écrire des textes. Et ce sont des textes hybrides, mi-politique, mi-théorique, de rupture progressive avec les explications, y compris les explications critiques qui étaient données au sein du parti. Moi, j'étais là-dedans. Et ça me plaît pas. Et je pense qu'il faut sociologiser tout ça. Je vais même... Là, vous avez le droit de rire. Je vais même jusqu'à... Je suis tout jeune. J'ai pas été vraiment bien formé. J'ai été un mauvais élève, par ailleurs. C'est seulement après que je suis devenu, je crois, un bon élève. Et j'invente des concepts. Parce que j'ai besoin de concepts. Alors, j'ai inventé, tenez-vous bien, je lisais Althusser à l'époque. On avait 22, 23, 24 ans, etc. J'avais inventé le concept d'infrastructure idéologique non consciente de classe. Alors, c'est délirant. C'est délirant. Parce que, évidemment, plus je vais me mettre à lire Bourdieu, je vais me dire, tiens, il parle d'un truc là, qui s'appelle l'habitus. Et que quand même. Bon. Alors, c'est aussi important, ça. C'est parce que devenir sociologue, construire l'objet, c'est plein de choses à la fois. C'est à la fois rompre avec, effectivement, la fascination du réel, la fascination de la politique, et sur le communisme avec plein d'autres choses ensuite. Et c'est aussi devenir sociologue, c'est-à-dire apprendre le métier, le langage, les théories, les concepts, etc. Et donc là, c'est un travail de lecture. Donc moi, j'ai essayé d'être un disciple. Et quand j'ai passé l'agrégation de sciences politiques, je savais que c'est, si on était entre nous, mais je peux pas dire ça, je dirais ces enculés, c'est-à-dire le jury allait me poser la question, mais monsieur Pudal, vous n'êtes qu'un disciple de Pierre Bourdieu. En sciences politiques, c'est pas bien. Alors, j'avais prévu deux choses. Premièrement, de répondre que le problème, c'est pas de savoir si tu es un disciple ou pas. Le problème, c'est de savoir si tu es un bon disciple ou pas. Parce qu'être disciple, ce n'est pas un péché mortel. Donc, mais tout le monde n'a pas les moyens de l'être, surtout quand on n'est pas à la hauteur du maître, et de très loin. Et puis, la deuxième chose que j'avais prévu de leur dire, c'était une citation de Marx, d'après laquelle il n'y a que quand on est membre d'un jury qu'on peut se prendre pour Dieu, parce que de toute façon, on risque rien. Le candidat peut pas rétorquer. Mais j'ai pas eu besoin de l'utiliser. Donc là aussi, ça renvoie à ce que je suis en train de dire, à ce que tu disais d'un certain point de vue, le travail sur soi. C'est difficile de rendre compte de ça, parce que c'est confus, on est à la recherche d'un vocabulaire, de théories satisfaisantes, il faut qu'elles soient en conformité quand même avec son passé politique et théorique. Ben, donc j'ai parlé de ça ailleurs, je ne reviens pas là-dessus. En tout cas, ça fabrique une sorte d'attitude. Et c'est dans cette période de gestation que se fabrique une attitude qui va ensuite permettre de construire l'objet, c'est-à-dire de se saisir de la sociologie de Bourdieu, pour dire les choses simplement, en empruntant, et je suis pas le seul à le faire à partir de ce moment-là, en empruntant toute une série de chaînes d'analyse qui vont être investies sur le sujet sur lequel on travaille, en ce qui me concerne, sur le communisme. Alors bon, là, je vais pas faire l'histoire de ma carrière, mais par exemple, il faudrait, en matière de construction d'objets, concernant les objets politiques, les objets canoniques, il faudrait faire état de l'importance qu'ont eu pour nous un certain nombre de textes qui sont des textes de construction d'objets. On nous dit, Daniel Gaxi, qui est dans la salle, publie un petit manuel, ce qui n'est pas vraiment un manuel, qui s'appelle « Les professionnels de la politique », que j'ai un peu décortiqué il y a quelques années, qui doit être publié en 76, non, Daniel ? 60 ? 73. Tu as toujours été un très très bon élève précoce. Donc, mais c'est très important pour nous, parce que c'est le type même de texte où les concepts qu'il va falloir faire fonctionner, le professionnel de la politique, rapport à Max Weber, relecture des grands de la science politique, mais au regard de la sociologie de Bourdieu, donc c'est un travail d'appropriation, s'opère. Et en fait, si on faisait le bilan, hein, si on regardait ça de près, bien sûr, il y a tous les textes de Bourdieu sur la politique et sur le communisme, j'en ai fait un papier dans le livre de Gérard, mais il y a aussi tous ces textes de politistes qui sont des passeurs, des traducteurs, et qui sont des passeurs et des traducteurs uniquement sur les problèmes de construction d'objets. Par exemple, c'est l'article de Bernard Lacroix, que beaucoup ne connaissent pas, j'ai vérifié l'autre jour, mais qui en sciences politiques a été très important, publié dans le traité de sciences politiques, qui s'intitule « Ordre politique, ordre social ». Et là aussi, il faudrait décortiquer cet article, dans lequel Lacroix dit « Attention, nous en sciences politiques, si on veut travailler sur l'État, voilà comment il faut faire. Si on veut travailler sur un parti politique, voici ce que c'est que la déréification des collectifs. Si on veut travailler sur l'électorat, voici... » Il parle déjà, on est en 85, de Le Pen, etc. Il y a toute une série de considération de construction d'objets, de l'objet, si j'ose dire, étude du Front National, qui sont, à mon avis, tout à fait d'actualité aujourd'hui. Donc, il y a ça, il y a, en ce qui concerne, et ça m'intéresse au premier chef, et ça, je suis obligé d'aller vite, mais le travail de Michel Auferlé. Michel publie un que sais-je, qui est un détournement de collection, qui s'appelle Les partis politiques. Je mets au défi ici quiconque de lire ça en s'imaginant une seconde qu'un môme du code de collège, j'ai toujours rêvé qu'un môme de collège allait à la librairie parce que son prof lui avait donné un exposé à faire sur les partis politiques et qu'il tombe sur le livre d'Auferlé. Évidemment, c'est la catastrophe la plus totale. C'est illisible pour un gamin. Même pour nous, c'est pas facile à lire puisque c'est vraiment, Donc il y a le texte de Auferlé, il y a le fameux article des annales qui, moi, va me rendre plein de services sur la légitimation d'un personnel politique illégitime. Comme par hasard, je travaille avec Michel à ce moment-là sur ce genre de sujet. Je ne vais faire que l'appliquer au PC. Donc, dans un premier temps, je dirais, j'emprunte à cette boîte à outils de la sociologie et des passeurs qui, en sciences politiques, ont fait des textes qui portent sur comment appréhender les objets que vous prétendez traiter, hein, entre autres, pour moi, le parti politique. Je me sers de ça. Bon. À partir de ça, par exemple, un schéma comme la déréification des collectifs, qu'on emprunte beaucoup, alors il faudrait faire la suite. En fait, le livre maître dans cette affaire, c'est les cadres de Boltanski. Le texte de Lacroix est issu d'une note de lecture de la Revue française de sociologie qu'il a faite sur les cadres de Boltanski, où il dit « Voilà en quoi ce livre qui, sur une catégorie socioprofessionnelle, peut nous permettre, à condition de savoir transposer, d'étudier d'autres types de collectifs, et en particulier les partis politiques. » Donc, c'est tout à fait... Il y aurait tout ce truc à faire en Sciences Po. Bon, alors, j'ai déjà beaucoup parlé, et j'arriverai jamais à mon truc. Moi, il faut que j'accélère. Donc, en tout cas, dans un premier temps, je fais ça. La déréification des collectifs, c'est là que j'en étais, pour mémoire et pour aller vite, ça conduit tout simplement à faire des biographies collectives. C'est-à-dire à étudier un ensemble de trajectoires biographiques, à les classer. Je vous fais pas de dessin sur la biographie collective. Je tiens à dire d'ailleurs que je savais pas que je faisais une biographie collective. Ça me paraissait simplement logique pour étudier d'une autre manière le parti politique et se défaire de tout ce qui était attaché à cet être collectif qui s'imposait à nous. Eh ben, il fallait faire ça. Donc, voilà, je pars sur une biographie collective. Le modèle pour nous, à ce moment-là, c'est Christophe Charles. Donc, on est bien dans un dialogue avec des gens qui essayent de faire fonctionner l'histoire et la sociologie. J'arrive à aujourd'hui, si j'ose dire. Et c'est en faisant ce travail, qui suppose tout un travail sur les biographies, il faut savoir décoder les récits biographiques qui sont au principe des différents types de biographies sur lesquels on travaille. Travailler sur une notice nécrologique, c'est pas la même chose qu'une profession de foi, etc., etc. Je vous fais pas de dessin, mais enfin, on fait tout ce boulot, et ça prend énormément de temps. Mais d'un certain point de vue, la construction d'objets est au principe de la recherche qu'on est en train de conduire. Alors, je viens de dire deux choses. Premièrement, ça conduit au fond, alors là, c'est une ambiguïté de ce genre de travail, En fait, on fait fonctionner des individus épistémiques quand on fait une biographie collective. Mais on fait semblant de faire fonctionner des individus réels ou nommés. Alors ça, c'est un des problèmes. Je trouve que la notion d'individu épistémique est une notion rarement réutilisée, alors qu'elle me semble, d'un certain point de vue, en termes de construction d'objets, tout à fait fondamentale, puisque c'est une façon de nous rappeler qu'on ne traite jamais des individus. Mais évidemment, si on veut vendre notre soupe, on n'a pas intérêt à dire qu'on parle d'individu épistémique. Imaginez la biographie de machin comme individu épistémique. Déjà, on a du mal à vendre des bouquins, n'est-ce pas? Alors là, c'est fini. Bon, je passe sur toutes les difficultés qu'il y a à travailler sur le communisme, l'ensemble des grands récits qui entourent tout ça, l'importance de l'histoire sociale. Bon, parce que j'ai pas le temps, et j'avais beaucoup de choses à dire, j'ai pas résumé ma vie, mais pour en arriver au stade actuel. Je trouve que dans ce travail, à un moment donné, nous sommes tombés avec Pentier sur un document particulier. Donc là, ce document, c'est les autobiographies communistes d'institutions, des autobiographies de militants qui étaient archivées à Moscou. Jusqu'en 1993-94, on n'avait jamais vu ces récits. Donc on tombe sur un type de document. Et là, au fond, il se pose là encore des problèmes de construction d'objets. C'est-à-dire d'une définition de travail, d'une définition, je dirais, provisoire à la Durkheim de ce que c'est ce type de document, que si on veut les exploiter. Et alors, dès 96, formule les choses comme ça, c'est publié dans Genèse. J'ai dit, prise dans les jeux d'une institution appareil, je reviens pas sur la différence entre institution appareil, moi aussi j'ai fait la note pour le dictionnaire biographique sur la notion d'appareil chez Bourdieu, c'est à la fois détestable et en même temps il l'utilise dans certains cas, quand de son point de vue, il y a une pathologie du champ. Mais donc, voilà, c'est vrai que Bourdieu est compliqué à utiliser. Donc, prise dans les jeux d'une institution appareil, assujettie à une vision cryptomatique complotiste de l'histoire, l'autobiographie de l'institution, suivant les usages qui en sont faits, est un rite d'institution, un curriculum vitae, d'un postulant au rôle de la Révolution, une pièce d'inquisition possible, un moment privilégié d'objectivation sociologique de soi, et puis, etc. Un moment de remise de soi à l'institution, de distance à l'institution, voilà, on se donne une définition qui nous permet, au fond, de commencer à travailler. On a travaillé 20 ans là-dessus, à partir de cette définition. Mais ce qui est fondamental, c'est la définition. C'est-à-dire qu'elle nous permet d'étudier, si j'ose dire, je crois, l'ensemble des facettes de ce document. Et on se trouve, une fois de plus, dans le cadre, si j'ose dire, très vite, on se trouve dans le cadre d'un document qui a une particularité, c'est que notre entrée était nationale, et ce document, il vient de Moscou. Donc on découvre petit à petit que derrière ce document, derrière ces autobios, il y a en fait tout le système soviétique. Et que, alors je ne vais pas vous administrer la preuve, mais là, il faut partir donc à Moscou, partir chez Lénine, partir pour voir tous les usages qui sont faits de l'autobiographie de parti, de l'autobiographie des militants dans le monde communiste. Et ces documents, ils sont liés, là aussi, à une modification de la construction d'objets que propose Bourdieu. Quand on lui pose la question suivante, et ça, je me sers de ça, moi, comme outil, on lui dit, lors d'une conférence qu'il fait, je ne sais plus si c'est au Japon ou en Allemagne, on lui dit, ah ouais, mais votre schéma là, de l'espace social divisé, hiérarchisé en chiasme en fonction du capital économique, du capital culturel, ça ne marche pas sur le monde communiste, le monde soviétique, puisqu'il n'y a plus de capital économique, il n'y a plus de capital culturel comme capitaux structurant ce monde social. Et Bourdieu dit, ben oui, ça ne marche pas, puisque c'est probable. Alors il dit, mais toute société est organisée hiérarchiquement, il y a des dominants, des dominés, nanana. Donc si ce n'est pas le capital économique, si ce n'est pas le capital culturel, c'est le capital politique. Il se trouve que nos autobiographies et tout le travail biographique du monde communiste renvoient en réalité au capital politique. C'est la raison pour laquelle on m'a demandé de faire un article sur le capital politique dans le dictionnaire. Bon, alors, autorisation, parce que c'est ça tout le problème, et j'en vais en avoir terminé, je passe sur beaucoup de choses. Il y a une thèse de Bourdieu qui est très forte, qu'il répète à différentes reprises, aussi en matière de construction d'objets. Il dit le défi, c'est de réussir à mettre en jeu des enjeux théoriques importants sur des objets empiriques circonscrits et limités. Et c'est ça, pour lui, l'une des plus grandes difficultés. Et d'un certain point de vue, bah, c'est vers ça que je suis allé. Et donc, j'ai proposé, et je propose, j'espère que ça ne coupera pas l'appétit, un concept visant à rendre compte de fond de toutes ces phases de la construction d'objets qui nous ont conduit progressivement à cette idée, et qui est un concept totalisant, peut-être discutable, sans doute discutable, provisoire, que j'ai adopté à un moment sans même y réfléchir. J'ai lu un texte d'un Allemand qui parlait de biocratie. Je me dis, oh, c'est pas mal. Biocratie pour désigner tout ça. Et bon, après, je me suis demandé ce que c'était que la biocratie. Je passe là-dessus, parce que derrière, il y a tous les problèmes de la psychotechnique dans l'entre-deux-guerres, de la gestion, de la rationalisation des comportements humains, etc. etc. Et donc, j'ai opté pour la notion de sociobiocratie. Parce que ce qui est du domaine du biocratique, ça renvoie soit à un pouvoir politique fondé sur la vie, la bio, mais au sens biologie. Et évidemment, ce qui caractérise le monde communiste, c'est pas ça, d'où sociaux. Et c'est une des dimensions. Alors voilà, qu'est-ce que ça nous permet ? Alors, ce concept qui résulte, à mon avis, d'une construction d'objets, ou qui est une construction d'objets. D'abord, il permet d'éviter des choses. Ça évite toutes les catégories comme totalitarisme, etc. C'est bazardé. Ensuite, c'est un concept englobant, mais il est au fond assez descriptif, il dit rien. Hein. Et il met de côté un des problèmes essentiels de l'histoire du communisme, qui est le rapport entre une idéologie marxiste de libération, etc., et des dictatures. Donc le concept laisse en suspens cette question-là, sans pour autant interdire de le traiter. Troisièmement, c'est un mot nouveau. Alors, ça m'a amusé de voir que, Bourdieu, dans le manuel de sociologie générale, il dit « C'est par volonté de méthode que je donne une série de noms partiellement interchangeables. Il m'est en effet souvent apparu au cours de mon travail que le simple fait de mettre un mot pour un autre faisait faire d'immenses progrès à la recherche. » C'est pas si évident que ça, quand même, hein, d'accepter ça. Quatre. Troisième point, c'est d'espérer que ce mot nouveau, quand même, nous décentre, etc. C'est, après tout, c'est la fonction des constructions d'objets. Quatre, d'associer des technologies sociales qui ont initialement pensé pour le monde soviétique et ont voyagé dans le monde communiste en entier, en Chine, ailleurs, dans tous les partis communistes. Autrement dit, là, on est au cœur de ce qu'aujourd'hui on appelle, soi-disant, l'histoire transnationale. C'est une façon de la faire, et donc une façon de penser, en se dégageant, j'ai pas le temps de développer, en se dégageant de la nationalisation de l'enjeu communiste, et de penser les tentatives d'homogénéisation du monde communiste par le biais de ces technologies. D'inscrire ce travail, évidemment, dans une réflexion, c'est un champ d'étude, du coup, parce que la sociobiocratie, ça présupposerait qu'on soit capable de faire une histoire sociale de la sociologie spontanée. Parce que, bien évidemment, il n'y a pas une théorie sociologique de la biographie dans les autobiographies communistes des institutions, et je pense que, du coup, c'est peut-être un champ d'étude. Enfin, bon, je ne développe pas, ça permet de relire toute une série de phénomènes liés à l'histoire du communisme, comme le rapport secret de Nikita Khrouchtchev, qui n'est jamais rien d'autre qu'une l'écriture d'une nouvelle biographie de Staline, comme, évidemment, la spécificité des procès de Moscou, qui sont toujours fondés sur la réécriture de la biographie des candidats. Ça n'a rien à voir, de ce point de vue-là, avec ce qui se passe dans d'autres sociétés, notamment la société nazie. Enfin, tout ça, c'est le dernier intérêt, à mon avis, de ce concept. C'est qu'il permet quand même des études comparatives des différentes formes de biocratie dans des pays, dans des sociétés différentes. Et entre autres, ça réouvre sur un autre mode la question du comparatisme entre démocratie, où il y a des formes de biocratie. C'est le bouquin de Rosen, comment il s'appelle, sur l'eugénisme social en France, là, qui vient de sortir. Comment ? De Rosenthal. Bon, donc là, il y a tout justement la réémergence de toute une histoire, de l'histoire de l'eugénisme social dans ses différentes modalités. Évidemment, ça renvoie à la biocratie nazie. Hein, c'est-à-dire quand la biocratie est fondée sur l'invention de critères qui seraient en nature des critères différenciant les hommes, c'est le problème du racisme, et ça permettrait de penser, de comparer donc autrement les trois mondes que sont les mondes démocratiques, totalitaires dits nazis et totalitaires communistes. Voilà le délire d'un vieux chercheur en matière de construction d'objets.